La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Premier sujet, Pierre-Yves, ce matin, c'est l'engagement électoral de M. Trudeau là, de créer un programme national pour les soins dentaires.
Oui, il y a des questions qui me turlupinent ce matin, Paul. Et c'est pas que j'ai une dent hein, contre les promesses contre les promesses électorales, mais mais j'ai des questions.
Vas-y.
Hein? Oui, on veut mettre en place un programme, disons, de couverture de soins dentaires pour les moins de 12 ans au départ. Après ça, moins de 18 ans et personnes vivant avec un handicap, ce qui est très noble. Maintenant, j'ai des questions. La première, c'est qu'on dit ça va être pour les gens qui gagnent 90 000 $ et moins, hein, familial. Évidemment, Paul, ça va être la ligne 23 600 de la déclaration fédérale. Ce qui veut dire, après cotisation REER, après déduction de régime de retraite de l'employeur, après cotisation syndicale, après frais de garde, bon. Et dans le fond, encore une fois, parce qu'on utilise souvent cette ligne-là pour les programmes d'aide, il va pouvoir y avoir manipulation de gens qui voudront ou non participer au régime. Et donc, il y a ça, là. Encore de la distorsion avec la fiscalité, ça amène des problèmes de gestion, disons. L'autre point, on nous dit que les gens qui ont une assurance dentaire, par exemple, avec leur employeur, ne seraient évidemment pas admissibles, un peu comme l'assurance médicaments au Québec.
Exact.
Le problème que je vois venir, puis qu'on va avoir éventuellement des réponses probablement après les élections, s'il y a lieu, c'est que dans le régime d'assurance médicaments au Québec, par exemple, si ton conjoint ou ta conjointe a des assurances, il est obligé de te couvrir. Mais dans le cas d'une assurance dentaire, pour ceux qui en ont avec leur employeur, on sait très bien qu'on n'est pas obligé de la prendre. Et donc, je te donne un exemple. Tu travailles dans la fonction publique ou ailleurs, tu as une assurance dentaire. Puis là, tu te dis, écoute, l'assurance dentaire est tellement chère pour le plan familial que je regarde ça, là, puis ça ressemble beaucoup plus à un prépaiement qu'à une assurance quand il t'arrive pas de malheur. Et donc, je vais pas la prendre, puis je vais garder l'argent pour moi. Et quand j'aurai des soins dentaires à avoir, je les paierai moi-même. Mais si le gouvernement dit, si vous avez une assurance dentaire, vous avez pas le droit au service public, mais que vous êtes obligé de prendre votre assurance dentaire, est-ce que le gouvernement fédéral va faire un cadeau implicite aux assureurs en forçant les employés à contribuer au plan dentaire de leurs enfants et de leurs conjoints-conjoints? Ça, c'est vraiment la question que je viens de soulever ce matin qui est la plus importante. Parce que moi, je l'ai toujours refusé. Parce que ça coûtait cher.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est une autre question. L'autre point, c'est au niveau de ce que tu offres comme service, et pour avoir parlé souvent à des dentistes ou des hygiénistes dentaires qui, disons, travaillent avec les gens tous les jours, ils me disent « Regarde l'enjeu des couvertures publiques. » Ça amène tout le temps à la chose suivante. On vient pour faire une obturation à un enfant. C'est gratuit si on met un alliage. C'est pas gratuit si on met espèce de composite blanc. Mais les gens, ils veulent avoir des composites blancs aujourd'hui. Puis ils disent « Ben, je vais payer la différence de ce que le public couvre. » Ah non. Si c'est le public qui couvre, c'est obligatoirement l'alliage et donc tu peux pas payer la différence. Ah, donc les gens prennent l'alliage et donc c'est moins de qualité, ça dure moins longtemps, ça casse plus, mais surtout, tu sais, c'est il t'empêche de compléter. Mmh. Et là, je vais aller encore plus loin. T'as un bureau de dentiste à Vancouver, à Toronto ou à Valleyfield. J'aime bien dire Valleyfield. Mmh. Alors, la question est, penses-tu vraiment que ça coûte le même prix opérer un bureau
c'est
à Montréal?
Sûr.
Et non, est-ce que la couverture va être la même? Est-ce que le prix va être le même? Est-ce que ça va être modulé en fonction du coût opérationnel des dentistes? Est-ce que le gouvernement fédéral a pensé à ça? Tu sais, si tu rembourses un dentiste 50$ pour un service à Saint-Lin ou à Toronto, j'imagine qu'il ne couvre pas ses frais de la même façon.
C'est intéressant. Mais ouais. Tu sais, par exemple, l'assurance médicaments, les deux régimes, tu as le public et tu as le privé. Puis les pharmaciens trouvaient que les honoraires étaient pas assez élevés au public.
Ben oui.
Fait que qui subventionnait le public, c'était les assurances privées.
Ben oui, puis là, ajoute à tout ça, évidemment, tout ça, la question de comment on va financer ça, qui va payer,
ben bon.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Maintenant, tu veux me parler des taux d'intérêt.
Oui, parce que là, en fait, c'est la Banque Laurentienne qui m'a mis la puce à l'oreille hier. On a fait une annonce. Tu sais, on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des taux variables puis qu'ils sont exposés au risque de taux d'intérêt. Et ils ont dit hier, on va aider les gens. On va créer une équipe de fidélisation qui vont appeler les clients qui ont des prêts hypothécaires à taux variable pour leur donner des informations et des conseils pour les orienter puis les aider. En français, ça veut dire on veut pas que les démarcheurs hypothécaires ou les courtiers hypothécaires débarquent puis nous prennent nos prêts, donc on va appeler nos clients pour leur dire « Veux-tu geler ton taux? » Et c'est le fun pour les banques de geler un taux. Pourquoi? Parce que ça permet d'apparier une dette avec un actif pendant 5 ans, ça fixe ta marge d'intérêt, ça fidélise ton client qui s'est attaché par évidemment un prêt fixe fermé et ça fait en sorte que tu peux aussi titriser les prêts. Donc, prendre des prêts que tu as vendus à taux fixe, 5 ans, souvent couverts par la CHL, et aller revendre ça pour en reprêter à quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est très payant. Et c'est pour ça que les banques veulent créer une équipe de fidélisation pour aider le client à passer de variable à fixe. Mais l'autre affaire qui est
OK, alors qu'on nous présente ça comme étant une façon de nous aider, dans le fond, ça permet, avec la hausse, là, de tirer un avantage, faire plus de cash.
Ben oui, parce que tu renégocies un taux. L'autre affaire qui est intéressante, puis qui a beaucoup de questions, puis je suis même allé revoir hier mes notions, parce que j'étais un peu perdu. Tu sais, quand tu as un taux variable, quand les taux d'intérêt montent, puis tu as un taux variable déjà, bien, ton prêt hypothécaire, s'il reste sur le même terme, va monter, tu as plus d'intérêt à payer. Mais des gens qui ont de la place dans, disons, leur amortissement, ça veut dire des gens qui peuvent étirer leur prêt hypothécaire, eux, ils peuvent avoir, disons, un taux, un paiement qui reste fixe, mais c'est la durée, tu sais, il va avoir plus d'intérêt à payer, donc c'est la durée qui va s'allonger. Mais ça dépend de votre contrat. Alors, il y a des gens qui s'obstinent, qui disent, hey, moi, là, si jamais les taux montent, ça fait juste retarder, tu sais, le moment où je vais finir de payer mon hypothèque. Puis d'autres mondes disent, non, ça augmente mes paiements. Ben, ça dépend de votre contrat. Donc, allez voir. Êtes-vous un jeune prêt, un vieux prêt? C'est quoi la nature de votre contrat? Et quelles sont vos options? Parce que ça veut pas, c'est pas parce que ton taux d'intérêt monte que ton paiement va monter, mais ça se peut que ton amortissement soit plus long. Alors, c'est une question de réflexion.
De bien lire ce qu'on a signé pour savoir on s'est engagé dans à quelle quoi? Direction, ouais, à quoi. Merci, Pierre-Yves.
Salut.
C'est 23.